vaut mieux avoir 1000 écolos imparfaits que 10 qui font tout bien comme il faut et tous les autres qui en ont rien à faire. Et c'est une évidence.
Salut et bienvenue à toi, amateur d'écologie, mais aussi individu soucieux du bien-être de ton porte-monnaie. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de la Terre dans les épinards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurore Jacques de la société Goodvest qui propose des solutions d'épargne, en l'occurrence assurance vie et plan épargne retraite. Au cours de cet épisode, on aborde notamment l'impact environnemental de l'épargne, de la méthodologie de Goodvest pour tenter de le limiter et d'autres sujets comme le label ISR et ses limites. Petite précision, étant donné que cet épisode aborde le sujet de l'investissement, je rappelle qu'investir comporte des risques de perte en capital et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ceci étant dit, je te souhaite une très bonne écoute et j'espère que cet épisode te plaira.
Bonjour Aurore.
Bonjour Adrien.
Bienvenue sur le podcast de la Terre dans les épinards. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de Goodvest et de l'investissement responsable. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et présenter le projet de Goodvest ?
Ok, donc je m'appelle Aurore Pinon-Jacques, donc je suis Chief Marketing Officer et Lead Founder de Goodvest. Lead Founder, ça veut dire que je suis arrivée au moment où le projet était déjà créé. Donc le projet a été créé en septembre 2021, enfin lancé en 2021. Et je suis arrivée en septembre en avril 2022. Mmh. Donc pour expliquer brièvement Goodvest, ce qu'on propose, c'est une solution d'investissement responsable à destination des particuliers. Et on ne propose pas n'importe quelle solution d'investissement en fait. Il y a plusieurs particularités. Et si je devais les résumer en quelques mots, c'est tout simplement que c'est engagé pour l'environnement. Donc je pense qu'on aura l'occasion de détailler un peu plus en quoi ça consiste, mais dans les grandes lignes, voilà ce que c'est.
Ok. C'est solution, alors c'est assurance vie, c'est ça, je crois,
en termes exactement.
Pour l'instant, en tout cas, et ça a amené à se développer.
Exactement. La première enveloppe d'investissement qu'on a développée et qu'on a lancée, c'est de l'assurance vie. Et actuellement, on est en train de lancer un plan d'épargne retraite, ce qui était une autre enveloppe qu'on voulait lancer depuis longtemps, et ça arrive très très bientôt.
Et alors du coup, c'est la genèse du projet Goodvest, ça vient d'où ? Ça vient de quel ? Ça vient du constat que l'investissement avait un impact environnemental, ça et social. Il vient d'où ? Comment on explique cet impact environnemental, investir sur des produits financiers ? Comment ça impacte l'environnement ? Et ensuite, quel a été le cheminement à partir de ce constat pour lancer Goodvest ?
Alors, tu as tout à fait raison, la genèse de la création de Goodvest, c'est ça, c'est ce constat que l'épargne, l'investissement en règle générale a un impact sur l'environnement, sur le climat. Il y a une étude de l'Oxfam qui est sortie il y a quelques années et qui a montré que l'épargne moyenne d'un Français ou d'une Française, qui est aux alentours de 25 000 euros, ça émet l'équivalent de 11 tonnes de CO2 par an. C'est juste énorme, puisque 11 tonnes, c'est à peu près ce que, en tant que particulier, on va émettre sur une année avec nos voyages, notre alimentation, notre consommation, etc. Donc c'est colossal. Et en fait, pour expliquer pourquoi est-ce que l'épargne, pourquoi est-ce que l'investissement a de l'impact, il faut comprendre comment ça marche déjà. Ouais. Donc on a tendance à penser souvent, et là je vais vraiment reprendre le béaba, on a tendance à penser que l'argent qu'on a à la banque, il dort. D'ailleurs, c'est une expression, l'argent dort. En réalité, l'argent ne dort pas du tout. Il est placé, il est investi. Alors c'est un petit peu le cas sur des comptes courants. Tout le monde a un compte courant. C'est encore plus le cas sur des investissements de long terme. Or, en général, on a seulement une petite partie de son argent sur son compte courant, ce dont on a besoin à court terme, et la majorité de son patrimoine financier sur des placements à long terme. Et c'est ces placements financiers qui ont le plus d'impact sur l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, la majorité de ces investissements, ils vont financer des centaines, voire des milliers d'entreprises, et en particulier un secteur qui est surreprésenté, c'est celui des énergies fossiles, donc production, extraction de pétrole, de charbon et de gaz, tout ce qu'on aime. Les banques traditionnelles investissent énormément là-dedans, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'empreinte carbone de l'épargne est aussi colossale. Donc nous, on est parti de ce constat-là. On s'est demandé ce qu'il était possible de faire. Il y a d'autres acteurs qui, à peu près en même temps d'ailleurs, ont commencé à se pencher sur le compte courant. Et nous, on s'est dit, pour proposer une alternative qui va parler au maximum de monde. Tout en ayant un maximum d'impact, on va proposer de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français en termes d'encours, en termes de montant sous gestion. Donc on s'est dit, c'est vraiment par là qu'il faut commencer si on veut parler au maximum de monde et avoir de l'impact. Donc voilà un peu comment l'idée de Goodvest est née. Et petit à petit, on s'est dit, en fait, dans l'idéal, il faudrait qu'on soit en mesure de proposer des produits d'épargne responsables pour vraiment tout type de personnes, quel que soit leur patrimoine, quel que soit leur projet de vie, quel que soit aussi leur niveau de connaissance en investissement. Donc c'est la raison pour laquelle on est sur le point de lancer notre plan d'épargne retraite et on a vocation à lancer de nouvelles sortes d'enveloppes dans les années qui viennent pour vraiment répondre à tous les types de besoins.
D'accord, très bien. Et j'ai une question parce que j'avais entendu, je ne sais plus où, j'avais entendu que en fait, par exemple, lorsqu'on peut investir, je ne sais pas, mettons en actions, les actions, elles sont, dans un premier temps, elles sont échangées sur un marché primaire, c'est ça ? C'est là où l'investissement va vraiment aux entreprises, l'argent va vraiment aux entreprises, c'est ça, si je ne me trompe
c'est
pas.
Ça.
Et sur un marché secondaire, ensuite, qui est un peu le marché de l'occasion des actions, où ça s'échange entre propriétaires d'actions, mais l'argent ne va pas directement du coup aux entreprises à ce moment-là.
Au final, la réflexion, pour comprendre l'impact de l'épargne et comment on peut résoudre ça, elle ne tourne pas autour de cette notion de marché primaire et marché secondaire.
Ouais.
Même si c'est des concepts qui existent et qui sont tout à fait réels dans le monde de la finance. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a par exemple une assurance vie, et je garde l'exemple de l'assurance vie parce que c'est celui qui va parler au max de monde, on n'investit pas directement dans les entreprises, à la différence par exemple du crowdfunding, où là pour le coup on est sur un marché très très primaire en l'occurrence, on achète, on devient détenteur d'actions en général d'une start-up ou d'une PME, et finalement c'est assez simple à comprendre. Quand on est sur un produit comme l'assurance vie qui est un produit grand public, on investit en réalité pas directement dans des entreprises mais dans des fonds d'investissement. Et en fait, ces fonds d'investissement vont à leur tour investir, non pas sur une, non pas sur 10, mais sur des centaines d'entreprises. Donc en fait, c'est ça l'intérêt de l'assurance vie, c'est que ça permet avec une petite somme au départ, par exemple 300 euros, d'investir via les fonds d'investissement dans du coup énormément d'entreprises, ce qui permet d'avoir un portefeuille très diversifié et ce qui est du coup recommandé pour un investissement.
Et du coup, j'essaye juste de bien comprendre la chose parce que, effectivement, comment cet argent qui est investi en assurance vie, par exemple, dans des fonds, comment il a un impact environnemental et c'est là où je me trompe peut-être, du coup, s'il ne va pas directement, s'il ne finance pas directement une entreprise. Est-ce que, je ne sais pas si ma question est claire.
Alors, il finance les entreprises, c'est juste que ça transite par un intermédiaire qui est le fonds. Mais le fonds n'existe que parce que il y a des assurances-vie et d'autres types d'enveloppes qui viennent l'affluer finalement en financement, que lui ensuite va rediriger vers les entreprises qu'il aura sélectionnées. Et c'est pour ça qu'en fait, pour nous, pour notre métier, la clé, c'est de sélectionner sur le volet les fonds d'investissement avec lesquels on travaille. Parce que tu as des fonds d'investissement qui vont te dire nous, on va investir en majorité sur du gaz, parce qu'en 2022, ça a cartonné, donc c'était trop bien. Et il y a des fonds d'investissement qui vont avoir des méthodologies. En fait, chaque fonds d'investissement va avoir une méthodologie particulière. Et nous, chez Goodvest, on va vraiment effectuer un tri pour avoir uniquement des fonds qui correspondent à notre cahier des charges et à des exigences environnementales très strictes. Est-ce que c'est bon?
Je comprends la méthodologie des fonds. Je vais pas rester dessus sur ce sujet pendant très longtemps, mais c'est juste que du coup ces fonds qui investissent dans les entreprises ou qui achètent en tout cas des actions des entreprises, c'est ça? Ils les achètent. C'est de l'argent qui va directement aux entreprises ou ils achètent des actions à d'autres propriétaires d'actions déjà? Et c'est pour savoir concrètement, en fait, quand on investit, parce que l'argent qui est déposé sur un compte courant peut servir, par exemple, à financer des projets liés aux énergies fossiles. Donc, c'est ce qui peut faire que ça a un impact sur l'environnement. En assurance vie, j'ai plus du mal à voir le mécanisme qui impacte, en fait, comment on a un impact environnemental si l'argent que les fonds investissent ne va pas directement aux entreprises. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ?
Alors, si, ouais, je vois ce que tu
Ou
veux
est-ce que
dire.
ma question n'est pas forcément très claire?
En l'occurrence, c'est pas plus direct depuis un compte courant que depuis une assurance vie. Dans tous les cas, à partir du moment où tu as un compte courant, un placement, une enveloppe d'investissement quelconque, la finance, c'est vraiment un secteur qui est hyper intermédiaire. Mais in fine, l'argent voyage, il circule, il passe par plusieurs points, il passe par l'enveloppe d'assurance vie, donc il passe par le courtier, puis ensuite il passe par l'assureur, puis ensuite il passe par le fonds d'investissement, et ensuite il arrive à disposition des entreprises. Mais dans tous les cas, il y a un point A qui est l'enveloppe d'investissement, et il y a un point C, D, E ou F qui est au final l'entreprise qui va en bénéficier.
D'accord.
Donc l'argent, en tout état de cause, a un impact très concret, très direct, parce que chaque investissement est un choix, au final.
D'accord. Et du coup, la méthodologie Goodvest, ça va être quoi, du coup, donc il y a une sélection de fonds qui sont... alors, on pourra revenir dessus, j'allais dire... qui sont étiquetés un peu responsables, par via des labels notamment, mais est-ce que tu peux nous présenter la méthodologie utilisée par Goodvest pour sélectionner des fonds? Parce que l'un des buts de Goodvest, c'est aussi de respecter la trajectoire climatique, d'avoir une assurance vie qui permet de ne pas dépasser plus de degrés d'impact d'ici 2100, de respecter la trajectoire de l'accord de Paris. Alors du coup, quelle est la méthodologie appliquée par Goodvest pour ça?
Donc, la méthodologie Goodvest pour sélectionner les fonds d'investissement, c'est une méthodologie en entonnoir. Donc on va partir d'un univers de fonds d'investissement qui représente des centaines, voire des milliers de fonds qui se disent durables ou responsables parce qu'ils ont été labellisés ou tout simplement parce qu'ils ont envie de se présenter comme tel. Donc nous, on part de cet univers-là et on va appliquer un premier filtre qui est absolument non négociable, c'est est-ce que le fonds d'investissement participe à la production et l'extraction d'énergie fossile, à l'armement, au tabac ou au divertissement pour adultes? Si la réponse est oui à l'un de ces cas de figure, on ne travaille pas avec. Donc ça, c'est le premier filtre, et autant te dire qu'à l'issue de ce premier filtre, il ne reste plus grand monde, déjà. On a plein de fonds qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah, on a un super truc à vous présenter, est-ce qu'on peut en discuter ?» Et nous, en fait, on ne discute pas. La réponse est non. La réponse est « Vous nous dites ce que vous financez, vous nous fournissez une liste, on regarde, et après, si on est intéressé et si on voit que vous respectez nos critères d'exclusion, là, on discute. Mais on ne discute pas avant. » Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va mener une analyse de l'empreinte carbone de toutes les entreprises. Donc ça, on ne le fait pas tout seul, évidemment, parce que c'est un métier à part entière. On le fait avec Carbon for Finance, donc qui est un cabinet complètement indépendant, qui analyse donc l'empreinte carbone de l'ensemble des entreprises financées par le fonds. Et nous, c'est ce qui va nous permettre d'établir que tel fonds a une trajectoire de réchauffement climatique de plus 0,5, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 et plus 6 affinités. Et on va se servir de ça, effectivement, pour ensuite constituer des portefeuilles d'investissement qui vont, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, avoir une trajectoire de réchauffement climatique qui va être plafonnée à 2 degrés maximum avec un objectif de 1,5. Actuellement, en moyenne, sur l'ensemble des portefeuilles Goodvest, il me semble qu'on est à 1,6. Et l'objectif, c'est de continuer à descendre au fur et à mesure qu'on fait rentrer des fonds soit de plus en plus vertueux, soit qu'on remplace certains fonds actuellement par d'autres fonds qui sont encore meilleurs. Et ensuite, on va également mener notre sélection en fonction de thématiques, parce que nous, l'objectif, c'est quand même que ça reste concret pour nos clients. Donc, par exemple, on a un fonds qui est sur la thématique des forêts. Donc, c'est un fonds qui va financer des entreprises qui sont engagées dans qui possèdent des milliers d'hectares de forêts et qui les gèrent durablement. Donc, on va aussi fonctionner en fonction de ça. Et après, on mène quand même, parce que ça fait partie de notre métier, une analyse pour le coup financière. Quelle est la solidité du fonds, comment est-ce qu'il a performé en temps de crise dans le passé, et on va aussi faire appel à un comité qui va, une fois qu'on aura validé toutes ces étapes, établir si le contexte, si la conjoncture est propice pour faire rentrer ce fonds maintenant, ou est-ce qu'on se dit bon, il est bien, il remplit notre cahier des charges, mais on pense que c'est pas vraiment le bon moment, et donc on laisse de côté pour l'instant. Il y a aussi une autre chose que je n'ai pas encore mentionnée et à laquelle on fait très très attention, c'est l'engagement actionnarial de la société de gestion qui a construit le fonds. Parce que, en fait, en tant qu'actionnaire direct des sociétés, ces sociétés de gestion, elles peuvent assister aux assemblées générales, vérifier que les objectifs de décarbonation des entreprises sont remplis, qu'en tout cas on va dans la bonne direction, etc. Ou bien elles peuvent pratiquer la politique de la chaise vide et ne rien faire du tout. Donc nous, c'est quelque chose qu'on va regarder de très près. Est-ce qu'il y a vraiment un suivi? Est-ce qu'il y a vraiment une implication dans ces assemblées générales? Et nous, ça va aussi être un critère important lorsqu'on va faire notre sélection. Donc on a vraiment une méthodologie qui est très pointue, qui est aujourd'hui unique sur le marché et qui est extrêmement exigeante. On ne peut vraiment pas travailler avec tout le monde. Aujourd'hui, on travaille avec une vingtaine de fonds. Ce n'est pas beaucoup. On en fait rentrer régulièrement, on en remplace aussi régulièrement. Et l'objectif, c'est vraiment de tendre à un modèle toujours meilleur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dépendant en fait, des fonds qui existent. Et c'est la raison pour laquelle on est limité dans ce qu'on peut proposer, parce qu'on a des exigences et qu'on tient à les respecter.
D'ailleurs, puisque tu parles de ça, de des fonds qui existent actuellement, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que du coup Goodvest pense, je sais pas, ou la vision que vous avez en tout cas de l'intérieur, de l'évolution potentiellement des fonds ou de la manière dont la finance évolue justement vis-à-vis de ces contraintes environnementales. Il y a eu une apparition des labels ISR pour investissement socialement responsable, des labels Greenfin. Il y a plusieurs labels, certains sont assez critiqués, le label ISR il est relativement critiqué. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ces labels, ce qu'ils représentent, parce que tu parlais de fonds responsables du coup, ou ce qu'ils se disent responsables en général, c'est les fonds qui sont du coup labellisés ISR, c'est ça, enfin les fonds responsables dont tu parlais. Quel est un petit peu l'état des lieux et vers quoi on se dirige un petit peu à ce niveau-là?
Alors effectivement, les labels responsables qu'on voit le plus souvent aujourd'hui, c'est ISR et Greenfin, c'est les plus connus, ils ont commencé à émerger il y a une dizaine d'années à force, il y a de plus en plus de fonds qui sont labellisés. Ces labels, ils demandent des critères qui sont réels. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des critères qui sont relativement souples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir un fonds labellisé ISR qui va allègrement financer les énergies fossiles. Il va y avoir une refonte de ce label. Ça va arriver, ça va être soit cette année, soit l'année prochaine. Mais dans tous les cas, ce label, il a, si on peut dire, un peu vieilli. Je pense qu'à l'époque où il a été créé, c'était probablement une révolution et c'était un premier pas vers une finance plus durable. En tout cas, ça montrait une volonté et c'était très bien. Mais il a amené à évoluer. Le label Greenfin va être plus exigeant puisqu'il va pratiquer une exclusion sectorielle, notamment des énergies fossiles, avec des seuils de tolérance. Donc ça ne veut pas dire exclusion parfaite, absolue, mais c'est déjà quelque part une meilleure garantie. Et puis après, il y a tout un tas d'autres labels européens qui existent. Aujourd'hui, notre vision chez Goodvest, c'est que c'est un peu la jungle. En fait, la finance durable, au même titre que pour tous les secteurs d'activité, c'est extrêmement fou en fait. Quand tu es un investisseur ou un épargnant lambda, tu vois tous les labels qui existent et finalement tu te rends compte que en fait, une étude qui a montré ça, hein, que quand tu investis dans un fonds labellisé, t'as 50% de chances qu'en fait il soit pas plus vertueux qu'un fonds pas labellisé. T'as un peu envie de te dire, mais est-ce qu'on suit pas un peu de moi, quoi. Donc en fait, c'est pour toutes ces raisons que chez Goodvest, on a développé cette méthodologie assez complexe dont on discutait tout à l'heure. C'est parce que les labels, c'est bien, c'est un premier indicateur, ça montre une certaine volonté, mais c'est loin d'être suffisant. On ne peut pas juste se satisfaire de ça. Alors, il y a d'autres choses que les labels qui existent. Il y a la réglementation SFDR, qui rassemble divers articles et un produit d'investissement va être noté et ça va permettre d'avoir de la visibilité sur à quel point est-ce qu'il est impliqués dans la transition écologique. Mais là, il y a quand même un souci, c'est qu'en fait, ce sont les gestionnaires de fonds qui s'attribuent eux-mêmes la notation. Donc il y a un petit biais, donc c'est également un petit souci. Et ensuite, un autre projet qui est extrêmement complexe, mais qui va aboutir et qui pourrait changer la donne, c'est la taxonomie européenne, qui, pour le coup, permettrait d'avoir une vision objective et comparable pour tous les secteurs et du coup pour tous les produits d'investissement. C'est un travail colossal, mais qui, je pense, est nécessaire et qui pourra permettre d'avoir plus de transparence. Mais tu vois, tout ça, c'est hyper compliqué, en fait. Mmh. Et quand t'as un épargnant, quand t'as un investisseur et que t'as pas envie de passer des heures ou des jours à t'informer sur le sujet et quel label est meilleur que l'autre et cet article SFDR, ok, il a été mis, mais est-ce que finalement c'est vraiment représentatif de ce que fait le fonds? Enfin, tu vois, c'est juste pas possible.
Mmh, oui, bien sûr. Ouais,
et c'est une des raisons pour lesquelles on a créé Goodvest, c'est parce que on s'est dit, bon, voilà, on va appliquer une méthodologie hyper stricte, on va essayer de l'expliquer le plus simplement possible pour que les gens comprennent ce qu'on est en train de faire, et ensuite on va se donner à 100% pour s'améliorer sans arrêt, et qu'en fait les clients qui viennent chez nous puissent avoir confiance et se dire bon, Goodvest a intégré ce fonds, ça veut dire que c'est le meilleur de ce qui existe aujourd'hui, et je peux leur faire confiance, et je sais que s'il y a un truc encore mieux qui arrive demain, mais ils pourront remplacer ou ils pourront l'intégrer. Mais pour nous, je te cache pas que le graal, ce serait d'être moins dépendant des fonds d'investissement existants, et donc pourquoi pas de créer notre propre fonds un jour, qui serait un fonds extrêmement pur. On a quelques fonds d'investissement actuellement dans les portefeuilles dont on est très fiers parce que c'est des fonds qui sont très purs, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que l'offre est hyper limitée et du coup, si on avait la possibilité un jour, j'espère bientôt, de créer notre propre fonds, pour le coup, on aurait vraiment la main à 100% sur les entreprises financées et ça nous permettrait vraiment d'être dans le contrôle et d'avoir quelque chose de très pur.
Et est-ce que on est obligé, enfin pas obligé, mais est-ce qu'on peut trouver des fonds du coup qui soient pas, qui soient responsables, on va utiliser ce terme, mais qui soient pas labellisés? Est-ce que, pour dire, est-ce que c'est vraiment la jungle à ce point-là où du coup on peut avoir des fonds ISR qui financent les énergies fossiles et des fonds non labellisés qui pour le coup sont responsables?
C'est une excellente question, d'autant plus que c'est le cas dans d'autres secteurs du n'importe quoi. Mais par exemple, pour des biens de consommation, tu as des marques qui vont choisir de ne pas se faire labelliser alors qu'elles le pourraient, parce que c'est compliqué, parce que ça prend du temps, parce que ça coûte de l'argent.
Ça coûte de l'argent aussi.
Exactement. Donc on peut imaginer que c'est le cas aussi pour certains fonds. Pour être honnête, moi, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Il y a tellement de fonds qui existent. C'est peut-être pas à exclure. Mais honnêtement, j'ai quand même un peu de mal à y croire parce qu'aujourd'hui, la finance durable, c'est un enjeu tellement important. Et là, on parle de fonds d'investissement, on parle pas de start-up ou de PME ou de jeunes marques de cosméto. Enfin, donc, je pense que c'est possible, c'est une possibilité, mais à mon avis, si ça existe, c'est vraiment l'exception.
D'accord. Ok, très bien. Bah, écoute, on a un peu fait le tour de, grosso modo, de l'investissement responsable, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Comme tu le dis, c'est la jungle. Il y a beaucoup de choses à écrire, il y a beaucoup de choses qui existent, il y a beaucoup de choses à en dire. Si on peut juste revenir un petit peu sur toi, j'aurais aimé, c'est une question que je pose du coup, à chacun invité du podcast. Quel conseil tu donnerais, toi, à quelqu'un qui souhaiterait s'engager dans une transition, dans une démarche écologique? Quel serait, toi, ton conseil si tu devais aiguiller quelqu'un qui ne sait pas forcément par où prendre les choses, parce qu'il y a tellement d'aspects à prendre en compte. Ça peut être ça peut être l'épargne, ça peut être le zéro déchet, etc. Quel est peut-être toi, quel était ta premier pas que tu as fait, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut s'engager sur ce chemin-là?
C'est une question très très vaste, mais je vais donner un conseil assez général, c'est qu'il vaut mieux commencer là où on est le plus à l'aise et là où c'est le plus facile, évidemment. Alors ça peut couler de source, mais si on parle d'une personne qui, par exemple, vient d'avoir un réveil écologique en partant de pas grand-chose, mon premier conseil, ce serait vraiment ça. Il ne faut pas se mettre une pression de malade non plus pour être parfait partout, pour être parfait dans son alimentation, dans ses transports, dans ses biens de consommation, dans ses voyages, dans son épargne. Enfin, faut y aller step by step. Tu démarres là où c'est le plus simple. Si on parle de mon cas, moi par exemple, là où j'ai commencé, parce que c'était le plus évident pour moi et le plus rapide, c'était la salle de bain. Tu vois, passer à des produits solides plutôt que des produits dans des bouteilles plastiques, etc. Parce que pour moi, c'était le geste qui me demandait le moins d'effort, quelque part. Et ça a vraiment démarré là. Et après, la deuxième étape que j'ai passée, c'était de réduire ma consommation de viande. C'est une étape sur laquelle je travaille toujours aujourd'hui, alors que ça fait des années que j'ai commencé. Parce que je pense que j'ai un problème, comme beaucoup de gens, j'ai été élevée et j'ai grandi avec une culture où on mange de la viande plusieurs fois par semaine et on trouve ça hyper bon et le saucisson c'est délicieux, voilà. Donc c'est quelque
Et
chose
il
sur
faut
lequel je
passer
travaille.
à une autre, à un autre mode de vie.
Et il faut passer à un
Ça
autre
prend
mode
du
de
temps.
vie et c'est un travail constant. J'envie beaucoup les personnes qui naturellement n'aiment pas la viande, il y en a et aujourd'hui elles ont beaucoup de chance. Donc c'est un travail que je fais toujours aujourd'hui. Ensuite, y a tout ce qui est biens de consommation, vêtements, etc. Aujourd'hui, je trouve que c'est une étape qui est relativement facile à aborder parce que tu as plein de choses qui existent, tu as plein de marques éthiques avec de vraies ambitions environnementales et de vrais engagements qui se développent. La seconde main est un marché incroyable aujourd'hui. Enfin, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Et l'épargne, le sujet de l'épargne, en fait, c'est un sujet qui est un peu nouveau parce que jusqu'à il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. Mais en fait, c'est un des gestes les plus faciles. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu investis chez Goodvest, donc tu décarbones ton épargne ne va plus financer les énergies fossiles, et ça t'a littéralement pris quelques heures pour te renseigner, parce que c'est bien de se renseigner avant et de savoir exactement ce que tu vas faire, mais ensuite, littéralement, en quelques clics, en quelques minutes, ben, tu as accompli ton geste et c'est terminé, et tu n'en entendras plus parler, quoi. Donc, quelque part, c'est l'un des gestes les plus faciles, parce que tu peux faire comme ça, presque en un claquement de doigts. Mais ça demande de se renseigner, de s'éduquer un petit peu. Donc c'est là où il y a un peu plus de difficultés, où ça prend un peu plus de temps. Mais voilà un peu ce que j'aurais à dire s'il y avait s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont envie d'engager leur transition et qui partent du départ.
Oui, sur tous les sujets, de toute façon, il faut pouvoir s'éduquer sur. Parce que enfin, une transition écologique demande de pouvoir se renseigner sur tous les sujets aussi, et ça demande forcément un petit peu du temps pour faire le tri un petit peu de tout ce qui existe et de choisir la voie qui nous convient le mieux en termes d'impact.
Et puis
Donc.
il faut se lâcher la grappe aussi, tu vois. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir une posture et à parler d'écologie, tu vois, t'as toujours des gens qui. Enfin, t'auras toujours des revers de bâton, des gens qui vont te dire: Ah, toi qui te dis écolo maintenant, t'as un smartphone. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et il faut pas se décourager, il faut laisser passer le truc parce que enfin, les gens sont les gens. Et il faut pas se laisser affecter par ça, même si parfois c'est compliqué, il faut se lâcher la grappe, il faut et en même temps ne jamais rien lâcher. Donc c'est un processus, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Mais j'en parlais avec, parce qu'on a un podcast aussi chez Goodvest, et j'en parlais avec un des invités de podcast qui me disait, et je trouve ça très juste, mais il vaut mieux avoir mes 1000 écolos imparfaits que 10 qui font tout bien comme il faut, et tous les autres qui en ont rien à faire. Et c'est une évidence.
Oui, bien sûr. Oui. De toute façon, c'est impossible de toute manière d'être parfait d'un point de vue écologique. Donc, effectivement, il en vaut mieux 1000 que 10. Ouais, on est d'accord. Ok. Ben, parfait. Merci beaucoup, Aurore, pour cet échange. On arrive tranquillement à la fin du podcast. Donc, merci pour les éclaircissements sur l'investissement responsable.
Ben, merci beaucoup à toi.
Merci pour les conseils et à bientôt, à la prochaine.
À très bientôt.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si oui, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner au podcast, aux pages Instagram de La Terre dans les Épinards, à la page Facebook, à la newsletter du site de la Terre dans les Épinards.fr. Et je reste bien évidemment, comme toujours, ouvert aux commentaires et aux suggestions. Et en attendant le prochain épisode, prends soin de toi, de ton environnement et de ton porte-monnaie. Et on se retrouve en pleine forme. Salut!